Ah, je sais, le sujet n'est pas léger, mais pardon, c'est la volonté présidentielle, terminer son quinquennat avec la création d'un droit à l'aide à mourir. Alors, on ne dit pas euthanasie, le mot est tabou, mais enfin, c'est à peu près la même chose. En tout cas, l'Assemblée se penche à nouveau sur le texte. Un vote est censé se faire ensuite, ça repartira au Sénat. Alors, on verra si le temps est respecté, le calendrier est respecté. C'est une loi qui est portée notamment par le député Modem Olivier Falorni. Est-ce que vous la souhaitez? Est-ce qu'effectivement il y a urgence à légiférer sur l'euthanasie, Barbara Lefebvre?
L'urgence, elle est à développer les soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs aujourd'hui en France, c'est la solution. Et toutes les personnes qui sont confrontées, hélas, à ce moment difficile d'un proche qui a une maladie grave, incurable, etc., le disent. Tous ceux qui ont pu bénéficier des centres d'hospitalisation de soins palliatifs disent que c'est la solution. La solution, c'est pas le suicide assisté, parce que une personne est libre de se suicider. Une société ne peut pas suicider quelqu'un. Je suis désolée.
Sauf si cette personne, par exemple, a une maladie qui l'empêche de le faire.
Eh ben, c'est ce que j'allais
passer à l'acte.
J'allais poursuivre. Le corps médical ne peut pas non plus être celui, d'abord c'est même interdit par le serment d'Hippocrate, ne peut pas être celui qui suicide quelqu'un. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États où la personne peut recevoir, parce que c'est suivi par des médecins, etc., va recevoir l'équivalent d'un poison qu'elle va pouvoir décider de prendre à un moment qui sera le moment où elle a encore la possibilité d'agir sur elle-même et d'avoir ce moment de décision qui lui est propre, qui est celui du suicide. Les médecins sont présents à ses côtés, mais ne lui administrent pas le poison. C'est la personne elle-même qui doit le prendre et qui doit être en pleine conscience pour le prendre. Aujourd'hui, demander à la médecine de prendre cette place-là, je trouve que c'est un bon anthropologique qui est absolument stupéfiant. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aux États-Unis, les études ont montré qu'entre 35 et presque 50% des patients qui avaient reçu le poison ne l'ont finalement pas utilisé au moment où ils auraient pu l'utiliser, et ont finalement poursuivi vers des soins palliatifs. Donc, aujourd'hui, on a un lobby en France, notamment autour de M. Falorni et d'autres groupes, qui nous explique que c'est un progrès de demander à la société, c'est-à-dire au corps médical, de suicider des gens. Moi, je trouve que quand on regarde les dérives au Canada, les dérives en Belgique, qui sont en train d'étendre et d'élargir le cercle. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que ça sera que certaines maladies dans certaines circonstances. Aujourd'hui, vous avez en Belgique des gens.
C'est un droit qu'on donne à certains.
Oui. T'es pas obligé. Oui, mais en Belgique et au Canada, on a observé qu'il y a eu un élargissement au point qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont trentenaires avec des dépressions nerveuses extrêmement graves et qui demandent le suicide assisté à 35 ans parce qu'ils ne se sortent pas de leur dépression. La situation, anthropologiquement, c'est très grave. Et que Monsieur Macron finisse son mandat sur ça, ça en dit vraiment long sur sa vision de ce qu'est le progressisme.
En Europe, il y a plusieurs pays qui ont légalisé l'euthanasie.
La Suisse.
Donc, il y a le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, la Suisse, l'Espagne a voté une loi en 2020 et le Portugal en 2023. Tu as cité également le Canada. Charles.
Barbara craint que ses élèves ne demandent la procédure, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y aurait... je prépare, je le ferai moi-même, j'ai pas besoin de quelqu'un.
Il y aurait plus beaucoup d'élèves dans la classe de Barbara, malheureusement.
Mais moi, je suis très sérieuse, je le ferai moi-même, je demanderai pas à un médecin de le faire à ma place.
Oui, mais si t'as la maladie...
Pas que je l'ai prévu dans
ma tête. Si t'as la maladie de Charcot, par exemple.
Justement, je l'ai prévu dans ma tête. Moi, j'ai prévu, si jamais on m'annonçait une maladie invalidante neurodégénérative, je n'ai pas l'intention d'attendre jusqu'à un certain point. Je pense que oui, je me débrouillerai d'une façon ou d'une autre, et tu peux toujours te débrouiller d'une façon ou d'une autre. Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête, mais je ne demanderai pas à un médecin, au corps médical, et encore moins à ce que la loi inscrive ça. Je n'arrive même pas à comprendre.
Alors, Charles, c'est un sujet qui est très compliqué, qui effectivement est un peu déprimant pour une fin de quinquennat s'agissant du jeune Macron. Je pense qu'il aurait pu trouver un autre cheval de bataille. Moi, j'ai écouté...
Parce qu'il pense qu'il y a sans doute un consensus à l'Assemblée nationale pour faire passer ce texte. C'est plus difficile de faire voter un budget en ce moment à l'Assemblée que de faire passer l'euthanasie.
Oui, mais bon, symboliquement, c'est quand même fort. Ouais. J'ai écouté les mises en garde de Philippe Juvin, qui est venu à
notre
micro,
la semaine dernière,
dire toute son hostilité à ce texte qui, selon lui, prévoit un système beaucoup trop simple et qui amène vers des euthanasies sans beaucoup de précautions, selon la lecture qu'il fait du texte qui doit être
les médecins
débattu à l'Assemblée. Philippe Juvin, qui est médecin, qui
les
travaille
médecins
à l'hôpital.
Sont en général très opposés.
Alors son nom est cité pour le ministère du Budget. Donc peut-être que si Philippe Juvin devient ministre du Budget, il aura moins de prévention sur la loi.
À mon avis, c'est prévention contre la loi font qu'il ne sera pas ministre.
J'espère que son éthique professionnelle primera.
Oui, mais la politique a ses règles propres.
Pas d'éthique.
Et donc...
On ne va pas faire ce procès d'intention.
Non, mais justement, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a dit.
Il en a remis une louche ce week-end dans la presse.
Je pense que cette loi, elle doit être amendée. Le risque, c'est quoi? Comme il l'a bien expliqué, le risque, c'est que quand vous êtes une personne âgée, très âgée, dont on s'occupe mal parce que vous êtes dans un mauvais EHPAD ou etc.
Parce qu'il y a, ça coûte cher.
Le risque, c'est qu'en fait, votre dégringolade s'accélère. Et finalement, vous êtes tellement déprimé et dans un état tel que vous finissez effectivement par avoir envie de mourir. Et en fait, donc le risque, c'est quoi? C'est qu'on débranche joyeusement les personnes âgées parce que en fait, on n'arrive pas à s'en occuper. Pour moi, c'est ça le problème essentiel.
Il allait même plus loin. Il disait que ça crée de la discrimination sociale, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens d'être bien pris en charge dans les EHPAD, etc., et d'être accompagnés. Et en revanche, les plus pauvres seront les premières victimes de l'euthanasie.
Ça me paraît l'évidence même.
Oui.
Stéphane, alors Bruno, avant de te donner la parole, il y a Stéphane qui vient de nous appeler. Et Stéphane, il a une expérience personnelle puisqu'il a vécu le suicide assisté de son père en Belgique. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour l'équipe.
Merci de nous avoir appelé. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Donc mon père était atteint d'une maladie neurodégénérative, une chorée de Huntington.
Il avait quel âge?
Il avait 62 ans au moment de sa mort. Il a développé les symptômes. Il faut savoir qu'à 60 ans, il s'est retrouvé en maison de retraite. Ça a été très difficile à vivre en plein Covid après, en plus.
Quels étaient les symptômes physiques?
Des tremblements, ça c'était les premiers signes, mais après, il s'est très vite dégradé pendant le Covid. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant avec des couches, ce qui était très, c'était un déshonneur pour lui, quoi.
Et donc, il a émis le souhait d'en finir.
Il avait toujours été au clair avec ma mère là-dessus, il évoquait. J'aurais pu emmener n'importe lequel d'entre vous de l'équipe là-bas, il serait présenté, il aurait dit « Salut, je suis Francis, j'ai envie de mourir ».
D'accord. Et alors comment ça s'est fait ensuite? Donc, comme c'est pas possible en France, vous êtes parti en Belgique?
Oui, il faut savoir, ma mère s'était renseignée un peu partout. La Suisse, il faut savoir que ça coûte 10 000 euros. Luxembourg, ça dure un an. La Belgique, il a fait un entretien. Je tiens à préciser que ça a été remboursé par la Sécurité sociale française.
Ah.
Il faut le savoir. Nous, ça nous a coûté 25 euros. Même le taxi était remboursé.
Et donc, c'est étonnant parce que c'est interdit en France, mais c'est remboursé quand on le fait en Belgique.
C'est comme
Je vous assure, c'était marqué consultation pour euthanasie. Hein.
Ah bah j'apprends quelque chose, je ne savais pas ça.
Ça nous a coûté 25 euros.
Et comment ça s'est passé avec votre père? Et vous-même, comment vous l'avez vécu?
Ben, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Ça a été, bien sûr, très difficile. Mais en fait, moi, 15 jours avant l'acte, moi, j'étais au clair avec mon père. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et ça, c'était très important. Ça n'a pas été brutal. Mon père, moi, j'ai une photo de lui 10 minutes avant. Il a un sourire. Il est fier et digne. Il est parti comme ça, quoi. Et pour nous, famille, ça a été beaucoup plus facile aussi, quoi.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane, chaque histoire est spécifique et personnelle. La question, justement, c'est une question d'éthique à la fois individuelle, c'est ce que vous évoquez ici, mais il y a aussi une éthique collective. On fait partie d'une société. Dans une société, est-ce qu'on demande à la médecine, non pas de soigner et de soulager comme ils le font dans les soins palliatifs,
oui, mais c'est pas si simple,
mais est-ce que l'on demande de donner la mort? C'est pour ça que je donnais l'exemple.
C'est pour ça que je donnais
l'exemple des États-Unis où c'est le patient lui-même. C'est le patient lui-même qui prend le poison et non pas un médecin qui le lui donne ou qui le lui injecte. C'est tout ce que je dis. Voilà.
Il a eu le choix jusqu'à la dernière seconde. Le médecin, en préparant l'injection, quand elle a été mise dans le cathé, il lui a bien demandé « Est-ce que vous êtes sûr ?» Mon père, il a dit « On y va ». Tu disais avant que toi, tu le ferais personnellement, mais c'est quoi l'idée de... combien il y a de personnes qui se suicident à domicile?
Il y en a beaucoup.
Mais justement, c'est pas documenté. Pour les familles.
Il y en a beaucoup, c'est pas documenté parce que justement, il y a énormément de gens qui se suicident à domicile avec tous les morphiniques, etc. qu'on leur donne. Il y a aussi des médecins.
Mais c'est très violent aussi parce que c'est la famille qui constate en général qui est la première à arriver sur place.
Donc en fait, vous voulez que ce soit la société qui le fasse. Vous voulez que cette violence-là, elle soit exercée par le corps médical. Demandez aux médecins tous les médecins spécialistes de la fin de vie, c'est-à-dire les médecins spécialisés en soins palliatifs, sont opposés
sauf
à cette loi.
Barbara, tu sais très bien que chaque jour dans les hôpitaux, il y a des médecins qui donnent la mort.
Non, ils ne donnent pas la mort, c'est des soins palliatifs, ils ne donnent pas la mort.
D'accord, on appelle ça comme tu veux, mais il y a quand même la frontière est assez grise.
Non, la frontière n'est pas grise, je l'ai connue moi aussi, tout le monde autour de cette table l'a connue. Je l'ai connue, j'ai vu sur ma grand-mère, donc arrêtez aussi.
On l'a tous connue et on sait très bien qu'à un moment donné, le médecin te fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix et que voilà, Bruno.
L'histoire de Stéphane est très émouvante. Moi, je pense pas que ce soit l'urgence aujourd'hui, mais il faut quand même le faire parce que il est quand même important d'avoir ça dans notre arsenal de solutions pour.
Toi, tu es pour, toi.
Moi, je suis pour parce que moi, mon père est mort comme ça. En fait, moi, ma mère m'a toujours expliqué qu'en fait, mon père, les médecins avaient dû un peu l'aider parce que il avait une sclérose en plaques et à la fin, comme on disait vulgairement, il était comme un légume et donc à 36 ans, ils l'ont. Je crois que ma mère, ce qu'elle m'avait expliqué, mais à 36 ans, ils l'ont un peu aidé à partir parce que de toute façon, il y avait plus du tout d'espoir pour quoi que ce soit. Et moi, je pense qu'il faut le faire et je pense pas parce que demain, t'auras cette loi ou en tout cas une possibilité de le faire que demain, t'auras des milliers de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. C'est surtout que ça évitera peut-être à Stéphane ou à d'autres personnes de sa famille d'aller en Belgique. Et puis Stéphane l'a très bien dit. Moi, mon père est mort, il est pas mort chez moi, mais au départ. Était prévu qu'il meure chez moi au fur et à mesure que ça se dégrade. T'as pas envie de ça. T'as pas envie de voir la personne mourir chez toi en dégradant. Donc en fait, si tu peux faire ça dans un cadre médical avec des gens autour de toi et avec une certaine conscience de tout le monde, moi je trouve ça nettement.
Ça s'appelle les soins palliatifs. Il y a une médecine spécialisée là-dedans, c'est les soins palliatifs.
Une question, Stéphane. C'est une injection
tous ceux qui
alors
en bénéficient, c'est une injection.
C'est le même principe qu'une anesthésie. En fait, on va te demander de compter jusqu'à 10. Lui, il a compté jusqu'à 3. C'est propre en fait, c'est propre. Moi, je travaille dans le monde des secours depuis toute ma vie. J'en ai vu des suicides, c'est affreux. Là, c'était propre, vraiment.
On va continuer d'en parler. Merci en tout cas, Stéphane, de nous avoir appelé pour nous raconter l'histoire qui est bien sûr forcément douloureuse à faire partager, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup d'appels au 32-16, c'est un sujet forcément très concernant. Donc, Anthony est déjà avec nous. On continue. À tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, le débat sur l'euthanasie, la fin de vie revient à l'Assemblée nationale, c'est une volonté présidentielle d'aller vite là-dessus. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée également, avec les députés macronistes, mais pas seulement, voudrait rapidement faire adopter une loi qui va créer un droit à l'aide à mourir. Alors c'est un vrai débat, au Sénat ils sont contre, à l'Assemblée plutôt pour. Est-ce qu'il faut effectivement légaliser comme le font d'autres pays comme la Belgique par exemple, l'Espagne, le Portugal ou encore le Canada. Après le témoignage qu'on a reçu à un instant qui était très fort, Anthony voulait également prendre la parole au 32-16. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Vous avez vous aussi vécu une expérience d'euthanasie avec votre père. Ça s'est passé en Suisse, c'est ça?
Oui, alors en Suisse c'est un suicide assisté en fait.
C'est-à-dire, quelle est la différence entre... Parce qu'il y a beaucoup de termes utilisés. Alors, euthanasie, d'ailleurs, c'est un terme un peu tabou, parce qu'on n'utilise pas, mais quelle est la différence entre suicide assisté et euthanasie?
Alors, l'euthanasie, c'est le corps médical qui vous injecte un produit létal, un puissant anesthésique à une dose létale. Et le suicide assisté, c'est le malade, on va dire, ou la personne qui fait ce geste. On lui met à disposition les moyens de mourir.
C'est lui qui administre le produit.
C'est lui qui s'administre le produit, tout à fait.
D'accord. Et c'est ce qui s'est passé avec votre père?
Oui, avec mon père, il y a 5 ans, il avait une maladie neurodégénérative et nous avons fait ce process à sa demande, c'était sa volonté. Et on s'est concerté en famille et c'était naturel pour nous de suivre sa volonté jusqu'au bout, de partir dignement et entre guillemets, c'est pas beau à dire, mais proprement, voilà, parce que.
Et comment ça s'est passé le jour J? Vous étiez là vous aussi?
Oui, on était là, on était ma mère, mon frère et moi et un ami également et on a fait un process, on arrive et. Ils lui mettent une voie intraveineuse et ça s'arrête là. Après, c'est lui qui tourne la molette de la perfusion.
Et donc, il y a un produit qui est injecté dans son corps et le décès intervient tout de suite?
En 30 secondes. Il s'endort quasiment instantanément, mais il s'endort en fait. Il s'endort, il part paisiblement.
Donc vous l'avez vu partir
dans nos bras, oui.
Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme aux États-Unis, c'est la personne elle-même qui s'administre le poison. C'est du suicide assisté. Oui. Ce n'est pas la même chose que ce que la Macronie veut nous faire passer pour un grand progrès de l'humanité, qui est que la médecine, le corps médical, soit à la fois celui qui soigne et qui guérit et celui qui donne la mort. Donc moi, je suis navrée, je reste sur ce que je dis. Et c'est pas non plus la propagande permanente de la Macronie qui nous explique que c'est le progrès, tout comme nous avoir expliqué que la PMA pour les femmes seules, c'était le progrès. Tout ça pour après venir nous écrire des lettres sur il faut la prise de conscience des parents et le père doit prendre sa part. Donc, je veux dire... Tout n'a plus aucun sens avec la Macronie. Tout est écrit par-dessus tête.
Ce qui se passait, Anthony, est-ce qu'il y a des médecins à ce moment-là? Non.
Oui, c'est un médecin qui encadre la chose. Après, si je peux me permettre, je comprends votre réaction, mais je pense que c'est un problème qui dépasse la Macronie parce que.
D'ailleurs, Falorni n'est pas spécialement macroniste.
Moi, je veux dire, je suis infirmier en psychiatrie. Et toute ma carrière, j'ai vu des gens qui, alors je les vois pas quand ils sont morts, je les vois quand ils ont essayé de mettre fin à leur jour. Et c'est pas forcément très propre. J'ai pas de jugement à porter. Est-ce que c'est légitime ou pas? Mais je trouve que ce qui est important, c'est que pour un pays qui se veut les droits de l'homme, je pense qu'avoir le choix
de sa mort,
de décider de partir dignement, peu importe que ce soit une euthanasie ou un suicide ou peut-être autre. Hein, je sais pas, mais.
Et justement, Anthony, vous êtes infirmier.
Oui.
Mais vous êtes infirmier. On part dignement quand on est pris en charge en soins palliatifs. C'est même le sommet de la dignité, les soins palliatifs.
C'est sur le papier, mais c'est pas toujours le cas dans la réalité, malheureusement.
Mais la réalité, elle est toujours différente selon chacun. La vie n'est jamais complètement propre. La mort n'est jamais complètement propre. Ce qui, moi, m'inquiète, si vous voulez, c'est une société qui veut tout assainir, tout hygiéniser. Il faut que tout soit. Alors, on y met des mots. La dignité. Alors évidemment, qui va être contre la dignité? Personne n'a envie de mourir dans l'indignité. Moi, j'ai pas envie de mourir
pourtant,
comme un légume, etc.
Régulièrement.
Mais on peut pas faire des lois générales sur des questions qui sont des questions aussi essentielles que la question de la vie, que la question de la mort. D'ailleurs, regardez, même quand sur la question de la vie, à chaque fois qu'on soulève cette question-là, quand il a été question de la constitutionnalisation de l'avortement, si on disait que c'était pas la peine de constitutionnaliser sans être opposé à l'avortement, on vous faisait passer pour une fasciste. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un espèce de discours progressiste qui veut mettre des mots qui sont des mots consensuels sur des actes qui, eux, ne le sont pas, qui sont pas consensuels, parce qu'encore une fois, ça fait...
Alors...
heurter l'éthique personnelle et l'éthique collective.
Ce qu'a vécu Anthony aussi, moi je comprends.
Une société,
parce que,
un individu, c'est pas la même chose.
Je pense que les gens qui peut-être ont décidé de mourir ne veulent pas que ce soit leur proche qui soit obligé de subir
gérer ça.
Moi je connais une personne qui accompagnait son papa dans ses derniers moments, ça a duré presque un an. Mais qui veut vivre ça en fait? Et la personne qui est là pour aider, elle, malheureusement, elle fait ça parce que c'est son père ou quelqu'un de proche. Et puis la personne qui est malade, elle voit son enfant.
Ça peut être un poids en fait.
Bah c'est un poids, et donc en fait, à un moment donné, tout le monde est malheureux. Alors
tu
que là, effectivement,
mais comme toi,
depuis
tout à l'heure,
tu généralises tout. Mais
non,
ça,
justement.
Mais là, j'ai pas fini. Arrête, t'auras pas raison sur ce sujet de toute façon, parce que c'est ton avis à toi, et ton avis représente que ça.
Et ton avis, il a forcément raison.
Mais non, moi je suis comme lui.
Mais
moi, je pense que comme vient de dire. Bien dire l'auditeur, c'est qu'à un moment donné, faut avoir le choix. Et le choix, c'est ça. C'est pas uniquement dire demain t'ouvres ça et t'as des millions de gens qui vont vouloir se suicider. C'est pas ça l'idée.
Si, parce que justement, c'est ce que dit le professeur Juvin et ce que disent beaucoup d'autres, c'est que ce seront les plus faibles.
Chacun son avis, en fait.
Les plus faibles et les. Bah excuse-moi, je ne fais que retranscrire la vie de certains. Les plus faibles et les plus pauvres surtout. Les familles pousseront un malade ou pousseront un membre de leur famille, une personne âgée, en lui disant mais tu penses pas que ce serait mieux, regarde, etc.
Mais
il y aura pas de garde-fous, tu auras de l'abus sur personnes vulnérables, mais bien sûr.
Il faut mettre des garde-fous, d'ailleurs, c'est ce que.
Mais les garde-fous, ils ont tous été dépassés au Canada, notamment.
Je sais pas si vous avez vu
les députés à l'Assemblée.
Cet excellent film qui s'appelle Soleil Vert, qui est un vieux film de science-fiction. Mais qui anticipe bien, je trouve, la question de l'euthanasie, puisque En fait, les gens passés un certain âge, on les flèche gentiment vers un petit circuit où ils vont avoir une vidéo retraçant les moments heureux de leur vie, et puis on les débranche. Et effectivement, souvent la science-fiction n'est que l'anticipation.
Alors,
hein.
Je voudrais remercier Anthony. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on écoute Yann qui vient de nous appeler. Yann, il est malade. Bon, bonjour, Yann.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bretagne, du Finistère. Vous avez un cancer en phase terminale, c'est ça ?
Oui.
Vous avez quel âge ? 43 ans ?
Tout à fait.
Et vous souhaitez avoir bénéficié de cette aide à mourir ?
Exactement. Moi, ça fait plusieurs années que je me bats contre la maladie. Là, malheureusement, début d'année, m'a été annoncé le fait qu'il me restait entre 9 et 12 mois à vivre. Et là, je suis dans la phase de la gestion de la souffrance. Donc, la gestion de la souffrance au quotidien, la gestion des symptômes. Et je pense que effectivement, j'ai entendu une discussion tout à l'heure sur le fait de se suicider à domicile. C'est quelque chose que j'ai déjà pensé, honnêtement. J'y pense encore régulièrement parce que la douleur, quand on la vit au quotidien, c'est juste insupportable.
Et cette douleur, on n'arrive pas à vous la soulager ?
Bah, je suis sur morphine matin et soir de façon importante. J'ai peut-être d'autres traitements à venir. Mais malheureusement, non. Alors peut-être reprendre de la radiothérapie ciblée, c'est des pistes que j'attends avec l'oncologue, mais c'est rien de faramineux. La douleur va aller en s'empirant au fur et à mesure. Et la gestion de la douleur pour les personnes malades, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué.
Bien sûr. Et vous savez que cette douleur va être plus forte dans les semaines et mois à venir, c'est ça ? Et c'est
exactement.
Cette crainte ? Ouais.
Et vous n'avez pas un parcours vers les soins palliatifs ?
Bah, c'est des discussions que j'ai eu avec l'oncologue. Il y a plusieurs options. Mourir à la maison, mourir en hôpital, mourir en unité palliative. Les discussions sont là-dessus. Pour l'instant, rien n'est encore défini totalement. Mais c'est vrai que moi, si à un moment donné, je peux avoir le choix et que cette loi pouvait passer, je pense que je préférais décider de quand je vais mourir que de continuer à souffrir.
Parlez avec votre famille, avec vos proches ?
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai des discussions avec mon frère, notamment. Les enfants pas encore totalement, ils sont un peu jeunes, mais oui, il va falloir que j'aie ces discussions avec eux, c'est certain.
Et vous pensez que vous avez besoin de la loi pour ça, pour prendre cette décision, vous avez besoin de la loi?
Ça m'embêterait d'aller à l'étranger pour le faire. Alors j'ai la chance, j'ai la nationalité canadienne aussi, donc je suis franco-canadien. J'ai vécu 7 ans au Québec, donc je pourrais aller au Canada, ça j'ai tout à fait possibilité de le faire, mais j'aimerais autant que ça soit fait en France.
Oui, c'est difficile de commenter ce que vous nous dites. Hein.
Non, mais ça montre,
beaucoup de courage,
en tout cas
que c'est une question.
Qu'il y a des lacunes dans la loi française. C'est quand
la
même
lacune,
là ce que
c'est
nous
qu'il
explique,
n'y a pas de soins palliatifs Yann. En suffisamment grande quantité pour répondre aux besoins. Voilà, parce qu'en soins palliatifs,
cas,
c'est cet accompagnement-là.
Yann, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir appelé.
Merci.
On a bien sûr demandé à ceux qui nous écoutent ce qu'ils en pensaient. Est-ce que c'est une urgence ? Faut-il légiférer rapidement sur l'euthanasie ? Et qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, vous dites oui, enfin, 61%. De toute façon, les Français, dans tous les sondages, sont favorables à une loi sur l'aide à mourir.